La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de la Compagnie des auteurs au cours d'une semaine consacrée jusqu'à jeudi à l'écrivain et dramaturge Anton Tchekhov. Anton Tchekhov, un homme qui se pensait d'abord comme un homme d'action, travaillant pour nourrir sa famille, travaillant pour soigner ses malades, mais que la littérature a pris, on l'a raconté, en quelque sorte par surprise, faisant de lui l'un des plus grands écrivains russes alors qu'il n'écrivait entre guillemets qu'en attendant. C'est de cet homme dont Virgile Tanaz nous a raconté la biographie dans l'émission de lundi dernier. Une fois cela posé, il fallait préciser son apport à ce que l'on décrit souvent comme son genre de prédilection, l'art théâtral. C'est ce qu'a fait pour nous hier l'essayiste et universitaire Georges Bagnu, qui nous a dit en quoi ces scènes de vie presque ordinaires, présentées simplement comme ça aux spectateurs, avaient conduit jusqu'à l'invention du métier de metteur en scène par Konstantin Stanislavski. Demain, nous vous proposerons une rencontre avec le metteur en scène allemand Peter Stein, qui a souvent monté ses pièces. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous nous intéressons aux récits et aux nouvelles de Tchekhov. Il y en a près de 600, la plupart assez courts, d'autres qui sont presque des romans comme Salsis ou plus encore Ma vie, qui compte près de 200 pages. Des textes qu'il écrivait semble-t-il facilement et qui, là encore, étonnent par leur conjugaison à la fois d'évidence et de simplicité. Nous en parlons en première partie de cette émission avec Françoise Darnal-Lenné, auteure du dictionnaire Tchekhov ainsi que du livre Anton Tchekhov, portrait de femme, tous deux aux éditions de l'Harmattan. Et puis en seconde partie, il sera question d'un récit à part, l'île de Sakhaline, dans lequel Tchekhov raconte les 3 mois qu'il a passé à visiter le bagne de cette île au large de la Sibérie dans l'idée d'écrire 100 ou 200 pages pour, disait-il, payer sa dette à la médecine. L'écrivain Olivier Rollin nous dira ce qu'il y a puisé à partir de 15h35. Bonjour, bienvenue, voici la Compagnie des auteurs.
Le roman, la nouvelle, la pièce de Tchekhov est ce que je connais de plus actuel et de plus moderne. Tchekhov a, plus que tout autre écrivain, et encore une fois plus que tout autre écrivain russe, l'art du raccourci. Il pousse le raccourci jusqu'au sous-entendu. Et cela, ça me fait toujours penser au trapéziste qui travaille sans filet. Parce que tout est simple en littérature quand on veut préciser. Mais tout est difficile quand il s'agit de suggérer et d'être fort dans la suggestion. Or, le « et tout ça » de Tchekhov est pour moi vraiment le summum de la qualité littéraire. Si l'on pouvait vraiment résumer les points précis pour lesquels Tchekhov est cher à mon cœur, c'est cela. D'abord, climat particulier, personnel, qu'aucun autre écrivain ne vous restitue, que l'on ne retrouve ailleurs, ni avant lui, ni après lui, et cette économie des mots, ce chic, j'avais presque envie de dire, pour ne pas appuyer, ne jamais insister, et donc laisser le lecteur imaginer ce qu'il ne dit pas, qui est aussi fantastique, c'est-à-dire cette liberté laissée au lecteur dans la suggestion. Laisser un peu en l'air. Le lecteur n'est jamais coincé dans une solution.
Bonjour Françoise Darnal-Lenné.
Bonjour.
Alors, climat particulier, économie des mots, le chic aussi, pour ne pas trop appuyer, dit Edmond Charleroux dans cette archive. Vous diriez aussi que c'est une écriture élégante par sa simplicité ? Que celle de Tchekhov dans sa prose, dans les nouvelles.
Oui. Absolument. Mais si vous voulez, ça n'a pas été sa vocation première. En fait, quand il a commencé en littérature, c'était pour simplement apporter de l'argent dans la maison. Et il était payé à la ligne, si bien que ses éditeurs dans les journaux qui se diffusaient à Moscou, les journaux humoristiques, la petite presse, lui demandaient de faire court pour avoir à moins dépenser. Donc il a trouvé un subterfuge pour cela. Il a créé des pseudonymes. Donc il a eu jusqu'à 14 pseudonymes, si bien qu'il pouvait caser 3 récits dans le même journal du même jour. Et c'est pour ça qu'il a appris à être très concis, et ce qui était devenu un ordre est devenu une habitude. Et ensuite, il a dit à son frère Alexandre, qui écrivait aussi, qui était, d'après ses dires, supérieur à lui, il lui a dit « Surtout, ne charge pas la barque, enlève le début, enlève la fin, occupe-toi de lui et de elle. Un point, c'est tout. » dans un récit. Donc, si vous voulez, c'est comme ça que ça a commencé, cette concision.
Et alors, c'est l'art de suggérer plutôt que d'asséner qu'on retrouve
Absolument. Et il faut être très attentif quand on lit une nouvelle de Tchekhov ou un récit, parce qu'il sème des petits cailloux blancs, des indices. Par exemple, dans le récit « Trois années », il parle d'une ombrelle au début du récit, qui semble absolument anodin. C'est un détail qui semble absolument anodin. En fait, au milieu du récit, le mari malheureux de Yulia des « Trois années » se met la nuit sous son ombrelle, sous cette ombrelle, pour essayer de retrouver le bonheur qu'il avait ressenti quand il avait vu cette jeune femme la première fois. Et à la fin, pour lui déclarer son amour, il reprend la même ombrelle, mais tout ça passe en l'espace d'une phrase à chaque fois.
Donc c'est une attention aux détails, toujours ?
C'est une attention aux détails qui deviennent événementiels. C'est vrai pour le détail dans les jardins, c'est vrai pour le détail de la pluie, des larmes, puisque ces personnages sont à peine esquissés. 3 mots, rien de plus. Donc si vous voulez, il faut être très attentif à cette technique d'écriture.
Alors, parmi les détails que l'on retrouve chez Tchekhov, il y a la ceinture verte de Natacha.
Natacha.
Le parapluie de Belikov aussi.
Oui, le parapluie de Belikov, mais il y a aussi ses caoutchoucs, son étui à lunettes. Et d'ailleurs, Tchekhov, si vous voulez, en prenant ces détails qui nous semblent superflus, a créé, Tourguenieff avait créé un personnage d'homme superflu, Gogol avait créé le personnage du petit fonctionnaire, et Tchekhov va créer le personnage de l'homme à l'étui. Ça veut dire un homme qui est dans ses habitudes, qui est pris par les a priori, qui n'est plus capable de juger, qui a le cerveau encalminé et qui ne vit que par Belikov, c'est ça, qui ne vit que par le biais des obligations qu'on lui a données.
Et pourquoi est-il comme ça, ce personnage ?
Parce que Tchekhov veut montrer aux Russes comme ils vivent mal. Et c'est une époque de répression. Alexandre III est au pouvoir, au début de sa carrière littéraire. Et comme son père Alexandre II a été assassiné, il prend des mesures restrictives très importantes, des mesures policières. C'est une époque d'une extrême violence. Toutes les libertés sont arrêtées. On parque les Juifs dans des zones de résidence. On exclut les femmes de l'université, on fait tout un tas de choses qui fait que Tchekhov trouve que les Russes vivent mal. Et justement, précisément, il va dénoncer ses a priori, il va dire que c'était un mode d'oppression, c'est un mode de soumission à un pouvoir dictatorial, et que de la soumission, on va à la démission. Et c'est tout cela que nous montrent ces récits.
Alors quel récit en particulier, quel exemple vous pourriez donner justement de ce rapport avec l'histoire russe ?
Il y a un récit, alors là c'est un problème très pointu, mais il s'en est occupé quand même pendant 10 ans, c'est sur l'histoire des Juifs parqués dans les zones de résidence. Il fait le récit Le Bourbier, où une jeune femme juive voit arriver un propriétaire rural et 2 lieutenants. C'est un récit de 1888, je crois. Et il lui dit, elle ne veut pas rendre l'argent à ces hommes qui se croient supérieurs parce qu'ils sont russes, parce qu'ils sont orthodoxes. Et elle, en tant que juive, elle arrive à les déstabiliser. Et il montre que entre les deux, il n'y a pas de différence. Alors évidemment, il était toujours en but à la censure, mais il était en même temps très heureux de provoquer la censure, puisqu'on a même proposé, on a même menacé de l'enfermer en prison s'il ne retirait pas les lignes qu'il avait dites sur la religion dans les paysans.
Alors vous avez raconté au début de notre émission comment il avait commencé à écrire, mais ce que vous n'avez pas encore dit, c'est que le problème de Tchekhov, et notamment au début de sa vie, c'est qu'il n'avait pas vraiment le temps d'écrire.
Vous m'écrivez que le héros de mon jour de fête est un personnage qui serait à creuser, Seigneur. Je suis pas une brute sans discernement, je suis capable de comprendre cela. Je comprends que j'égorge mes héros et que je les saccage, que je gaspille de bons matériaux. Pour vous parler en toute conscience, j'aurais volontiers passé 6 mois sur jour de fête. J'aime laisser couler le temps et ne trouve aucun charme à publier dans la précipitation. J'aurais raconté mon héros volontiers, avec plaisir, avec goût et posément. J'aurais décrit son état d'esprit au moment de l'accouchement de sa femme, sa mise en accusation, son impression d'écœurement après l'acquittement. J'aurais raconté comment la sage-femme et les médecins prennent le thé pendant la nuit. J'aurais décrit la pluie. Ça ne m'aurait procuré que du plaisir, car j'aime fouiller et prendre mon temps. Mais que faire? Je commence un récit le 10 septembre, avec l'idée que je suis obligé d'avoir fini pour le 5 octobre, dernier délai. Si je laisse passer l'échéance, je serai malhonnête et je resterai sans argent. J'écris le début tranquillement, sans m'imposer de contraintes, mais au milieu, je commence à me sentir inquiet et à avoir peur que mon récit ne soit trop long. Je dois me rappeler que le messager du Nord n'a pas beaucoup d'argent et que je suis un collaborateur qui revient cher. C'est pourquoi mon début est toujours prometteur, comme si je commençais un roman. Le milieu est bâclé, timide, et la fin, comme il se doit dans un petit récit, est traitée en feu d'artifice. Qu'on le veuille ou non, quand on fait une nouvelle, on se préoccupe avant tout de son économie, de la masse des héros et des demi-héros. On prend un seul personnage, mari ou femme, on place ce personnage sur le fond, et on ne dessine que lui, on le met en relief. Et tous les autres, on les éparpille sur le fond, comme une menue monnaie. On obtient alors une espèce de voûte céleste, une grosse lune, et autour d'elle la masse des petites étoiles. Mais la lune n'est pas bien rendue, parce qu'on ne peut la comprendre que si les étoiles, elles aussi, sont comprises. Et les étoiles ne sont pas au point. Finalement, cela ne donne pas de la littérature, mais une chose qui n'a plus ni queue ni tête. Que faire? Je n'en sais rien de rien. Je m'en remets au temps qui répare tout.
Une lettre de Tchekhov à son éditeur Souvorine, lue par Nicolas Vaude, Françoise Darnal l'aîné, et dans laquelle on retrouve un écrivain qui a le sentiment de bâcler son travail. Pourtant, ce n'est pas tellement l'impression qu'on a à la lecture de ses nouvelles et de
oui,
ses contes.
C'est Grigorovitch qui lui a dit en 86, j'ai lu un de vos récits. Grigorovitch est un ancien écrivain et est un critique très réputé. Il lui a dit, ne bâclez pas, ne travaillez pas à la va-vite. En fait, Tchekhov travaille le jour à la médecine et la nuit à la littérature. Et il dit dans une boutade, que voulez-vous, la littérature est ma maîtresse auprès de laquelle je passe mes nuits, tandis que la médecine est ma femme avec qui je passe le jour. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais c'est vrai qu'à partir de 1888, il va, après la steppe, le succès de la steppe, il va changer de registre, c'est-à-dire qu'il va être publié par des éditeurs sérieux, dont Souvorine, et là il va faire des récits beaucoup plus élaborés. Mais si vous voulez, son idée est toujours de montrer comme les Russes vivent mal, et ses récits sont toujours basés sur une antithèse fondamentale. Ça ne veut pas dire que ce sont les bons contre les méchants, ça veut dire qu'il analyse que parmi les bons, il y a du méchant, et parmi le méchant, il y a du bon, comme il disait. Mais si les gens sortent de Ivanov en disant que Ivanov est un salaud et que le docteur Wolf est un brave type, je n'ai plus qu'à casser mon crayon et arrêter d'écrire. Il voit donc toujours, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense.
Mais là, vous parlez du théâtre en citant Ivanov.
Mais dans les récits, c'est la même chose. Vous avez un récit dans la Combe qui se passe dans un milieu rural, et on a l'impression qu'il y a une méchante, celle qui tient le cabaret, et une gentille, celle qui s'occupe de la lessive. Et en fait, la méchante, se sentant dépossédée de la terre où elle pensait construire une briqueterie, va lancer de l'eau bouillante sur l'enfant de la gentille qui s'occupait de la lessive. Et l'enfant meurt. Mais si vous voulez, on peut reprocher à cette jeune femme gentille, c'est ce que lui fait le reproche la famille, parce que l'enfant était un garçon et qu'il était il était l'héritier de la famille. On lui reproche de ne pas avoir fait attention à cet enfant, puisqu'elle savait que l'autre était avide de biens terrestres. Donc vous voyez, c'est toujours compliqué, c'est un véritable puzzle en fait.
Alors il y a une nouvelle qui parle de l'enfermement.
Oui.
Beaucoup de ces nouvelles parlent de l'enfermement.
Oui.
Mais la salle 6, en particulier, oui, parle de l'enfermement psychiatrique.
Oui.
C'est une nouvelle qu'il a écrite au moment précisément où il écrivait son récit sur Sakhaline, dont on parlera, oui, en deuxième partie, oui, de cette émission. Et c'est une nouvelle qui est une sorte d'acte d'accusation dans lequel il dénonce la non-résistance au mal.
Oui.
Que Tolstoï...
Oui, le tolstoïsme, absolument.
Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, du rapport de Tchekhov avec cette idée de la non-résistance au mal ?
Je pense que, si vous voulez, Tchekhov a été longtemps sous l'emprise, enfin, très admiratif, et la philosophie tolstoïenne l'a énormément marqué, jusqu'au jour où Tolstoï a écrit la sonate à Kreutzer, juste avant le départ à Sakhaline en 1890. Tchekhov, ce récit, le lit, et lit ce récit, et de fait, il est outré, parce que c'est le récit d'une femme qui montre, Tolstoï montre que les femmes ont du dégoût pour les relations sexuelles. Et Tchekhov dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas pris le 5 minutes pour demander à un spécialiste. C'est ridicule.
Il trouve que Tolstoï n'est pas suffisamment documenté.
Pas suffisamment documenté et dit des ignominies. Il faut dire que pour Tolstoï, la femme est une pécheresse. Il est déjà dans sa crise moralisatrice. Il a écrit Anna Karenina, où il punit Anna de mort puisqu'elle a trompé son mari et délaissé son enfant. Il trouve que c'est normal qu'elle meure. Il n'y a pas d'autre. Et donc, si vous voulez, Tchekhov se révolte. Il dit qu'il y a des bons problèmes qui ont été posés dans Anna Karenina, mais il n'y a pas de bonne solution. Et Tchekhov ne... À partir de ce moment-là, juste après Sakhaline, où il voit des choses innommables dont vous allez parler après, il revient et il est encore plus partagé, persuadé que nous sommes tous coupables, aussi bien les condamnés au bagne que les geôliers au nez rouge parce qu'ils sont enivrés du soir au matin, qui les gardent. Et donc cette culpabilité partagée va être le filigrane de sa poétique. Jusqu'à sa mort.
Et dans celle-ci, s'il y a un personnage particulièrement intéressant, c'est le directeur d'hôpital, oui, qui arrive dans cet hôpital et qui voit bien que rien ne se passe comme il faudrait. Les patients sont battus, oui, l'hôpital est sale.
Oui.
Et lui, il s'en rend compte, mais il ne fait rien.
Il ne fait rien.
Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien ? Parce que il est en même temps complètement en empathie avec les personnes, les malades, les patients.
Mais il trouve Gromov avec qui il discute, le malade qui est enfermé et qui lui dit « je voudrais la liberté, je ne voudrais que ça ». Mais lui dit Ragin, qui se range derrière les a priori, la bonne conscience universelle, si je vous donne la liberté, je fais ouvrir la porte, de toute façon les voisins vous dénonceront, vous serez pris par les gendarmes et vous reviendrez à la case départ ». Et il ne veut rien savoir d'autre. Il sait bien que ça ne va pas. Il sait bien qu'on les bat. Il sait bien qu'il mange des choses horribles. Mais tant qu'il n'est pas vraiment concerné, lui, ça ne le fait pas souffrir plus que ça.
Vous croyez que c'est ça
Mais il est passionné de lecture. Sitôt qu'il est sorti de l'hôpital, au départ, il allait vraiment à l'hôpital. Et puis après l'apathie, les jours après les autres, il ne s'occupe plus de son hôpital. Il reste chez lui à lire des livres très intéressants. Et puis il va de moins en moins à l'hôpital. Donc si vous voulez, c'est une fois enfermé, qu'il va comprendre. Et là, vous voyez le retournement de la convention chez Tchekhov. C'est toujours dans un milieu noir, enfermé, la nuit, que les gens voient clair, comprennent.
Ce qui se rencontre le plus souvent dans les romans, nouvelles, etc. Un comte, une comtesse avec des traces d'une ancienne beauté, un gentilhomme ruiné, un musicien étranger, des gouvernantes, des valets stupides, un intendant allemand, un esquire et un héritier venant d'Amérique. Des personnages sans beauté mais sympathiques et attirants. Un héros qui sauve l'héroïne d'un cheval emballé, homme plein de courage et capable de montrer en toute occasion la force de ses poings. Un oncle riche, libéral ou conservateur selon les circonstances, moins utile au héros par des sermons que par sa mort. Une tante à Tambov. Un docteur au visage soucieux qui donne l'espoir d'une crise. Il a souvent une canne à pommeau et la tête chauve. Là où l'on parle de docteur, il y a rhumatisme causé par de justes travaux, migraine, congestion cérébrale, soins à quelques blessés en duel et l'inévitable conseil d'aller aux eaux. un domestique qui avait déjà servi les vieux maîtres, prêt à faire n'importe quoi pour ses patrons, même à se jeter dans le feu, un extraordinaire faiseur de bons mots, un chien auquel il ne manque que la parole, un perroquet et un rossignol, une villa aux environs de Moscou et un domaine hypothéqué dans le sud. Serviette en cuir de Russie, porcelaine de Chine, selle anglaise, revolver qui ne fait jamais faux feu, décoration à la boutonnière, ananas, champagne, truffes et huîtres. Une indiscrétion fortuite qui provoque de grandes découvertes, des interjections en quantité et des tentatives d'utiliser à bon escient des termes techniques, de fines allusions à d'assez gros événements, très fréquemment l'absence de conclusion, les 7 péchés capitaux pour commencer et un mariage pour terminer. Fin.
Voilà les ingrédients d'une bonne nouvelle, selon Tchekhov. Il nous raconte ça dans un texte lu par Guillaume Gallienne avec une ironie visible. Justement, pour nous, c'est l'occasion de parler des thèmes de Tchekhov. Je sais que vous avez travaillé sur la question des femmes chez Tchekhov. On va en parler. Mais les autres grands thèmes qu'on le retrouve dans les nouvelles?
Je dirais que c'est la lutte contre le monde des illusions. Il donne, il veut absolument que les gens passent du monde des illusions à la vérité.
La vérité.
Voilà. La vérité étant pour lui l'absence du mensonge, délaisser la trivialité de la vie. Il étrille toujours les milieux marchands où les gens ne pensent qu'à compter des sous, des copecs en fait. Il veut faire atteindre à la beauté, c'est-à-dire la beauté qui est l'absence de trivialité de la vie et qui seule la vérité peut amener à la liberté. Et la liberté individuelle et qui est toujours subjective parce qu'elle n'existe que pour soi. Ce qui vous semble liberté à vous, pas du tout liberté avec un grand L, mais ce qu'on pense que l'on doit faire de sa vie.
Donc pour vous c'est un guide de vie alors, Tchekhov,
voilà,
c'est ça?
Voilà. Absolument. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que ce sont plus les femmes qui sont dans ce schéma-là que les hommes. Et d'ailleurs, évidemment, pour les francophones, c'est un petit peu difficile à percevoir, mais ils donnent des noms dérisoires aux hommes. Ils les appellent le sable ou le boutonneux ou Proudhonov. Enfin, vous voyez, des choses très dépréciative, alors qu'il donne aux femmes concernées qui arrivent à sortir de l'ornière et à trouver leur liberté, il leur donne des prénoms comme l'espérance, aimer, tout un tas de prénoms très très sérieux et très Sophie aussi, et donc la sagesse.
Et dans votre dictionnaire Tchekhov, vous avez même rédigé une entrée femme nécessaire. Qu'est-ce que c'est que les femmes nécessaires?
Eh bien, si vous voulez, une femme nécessaire, vous avez Tourguenieff qui a inventé l'homme superflu, c'est-à-dire le ratiocineur qui philosophaille à longueur de journée. Et pendant ce temps-là, vous avez des femmes qui tiennent les domaines, qui Sonia dans Oncle Vania, et donc une femme qui compte les dindons, les veaux, etc., puisqu'ils se sont transformés en coulacs pour pouvoir vivre. Et elle pense être une femme nécessaire. Elle ne passe pas son temps dans l'oisiveté, parce que vous avez des femmes qui sont aussi dans l'oisiveté, mais que dénoncent des hommes. Les hommes, par exemple, dans le récit La fiancée, il lui dit textuellement, mais vous n'avez pas honte, si vous ne faites rien de vos journées, c'est parce que quelqu'un travaille à votre place. Mais cette idée qui est de 1903, ce propos qui est de 1903 existait déjà dans Platonov, où Platonov disait à Anna Petrovna « Mais vous êtes oisive, vous êtes vicieuse, etc. » C'est quelque chose qui... C'est une idée que Tchekhov a toute sa vie en tête.
Et lui, d'ailleurs, ne fréquentera pas tellement de femmes, à part des prostituées. Il se mariera, mais très tard, sur la fin de sa vie. On a l'impression qu'il refuse presque de s'engager réellement avec une femme.
Alors d'abord, je vais vous dire, c'est un très grand malade qui crache dans son mouchoir, après dans une petite gourde. Je pense que c'est un petit peu difficile d'avoir une grande amoureuse. Alors, Olga Knipper était
Je crois qu'il était assez charmant, quand même.
Bon, Olga Knipper était une femme qui s'était précisément faite par elle-même et qui avait travailler pour payer ses cours de théâtre. Elle était très organisée, ma petite allemande, comme il l'appelait, mon petit crocodile. Et en fait, je pense que c'est elle qui l'a plus demandé en mariage que lui. Il a Bon, il a marché, enfin disons entre guillemets, mais disons qu'il ne voulait pas que ça se sache, même sa sœur et sa mère n'étaient pas au courant. Mais toutes les femmes qu'il met en avant sont des femmes qui s'en sortent par elles-mêmes. Alors effectivement, au départ, il y a un homme qui leur permet, un fiancé ou un mari, qui leur permet de sortir de la maison familiale, puisque pour Tchekhov, la maison familiale n'est pas un nid heureux, n'est pas un cosmos, c'est une anti-maison, selon la terminologie de Yuri Lotman, le linguiste, et où on ne fait que l'empêcher de vivre. Et il faut à cette femme beaucoup de courage pour délaisser cette maison. Il lui faut, c'est un geste d'une violence inouïe.
Donc ce serait un féministe alors pour vous ?
Non, pas du tout. Il n'aurait pas du tout aimé. Il est subversif. Il est révolutionnaire, mais pas au sens où des bolcheviques, parce qu'il a horreur de la violence. Il dit toujours « mon saint des saints, c'est l'absence de violence, l'absence de mensonge, c'est la... le... » Il a horreur de ça. Mais il ne supporte pas qu'un être soit anéanti par un autre.
On pourrait parler aussi de la manière dont il parle, et vous le racontez dans votre livre, de l'intérieur, l'intériorité féminine. Oui. Et il ne décrit jamais, avez-vous relevé, l'apparence des femmes.
Voilà. Et justement, je me suis posé la question quand j'ai travaillé sur les femmes de Tchekhov, pourquoi ne les décrit-il pas ? Il ne parle des robes que lorsque c'est vraiment une femme qui est habillée de rose, qu'il trouve absolument vulgaire, ou la ceinture verte de Natacha. Sinon, les jeunes femmes sont habillées de blanc quand elles ont... Et là encore, il retourne la convention, parce que elles sont habillées de blanc quand elles sont mortes psychologiquement au sein de leur famille. Et quand elles ont franchi la barrière et qu'au besoin, elles attendent un enfant d'un homme marié, eh bien, elles sont habillées de noir. Donc, c'est le noir de l'espoir. Et là, je dois ajouter que Eros, la vie n'a pas amené la mort, mais c'est le contraire chez Tchekhov. Puisque même si elle meurt, la jeune femme, en mettant au monde son enfant, elle a trouvé sa liberté, qui est la vie pour Tchekhov.
Prenons un peu de temps pour entendre le début d'une autre nouvelle de Tchekhov.
Le major général en retraite, Bouldeyev, a une rage de dents. Il a pris des bains de bouche à la vodka, il a appliqué sur sa dent malade du culot de pipe, de l'opium, de la térébenthine, du pétrole. Il s'est badigeonné la joue de teinture d'iode, s'est mis du coton imbibé d'alcool dans les oreilles, mais tout cela a été inefficace et lui a donné mal au cœur. Le docteur est venu. Il a gratouillé la dent et ordonné de la quinine. Cela ne l'a pas soulagé non plus. Quant à la proposition d'arracher la dent malade, le général y a répondu par un refus. Tous les habitants de la maison, femmes, enfants, domestiques, jusqu'aux marmitons, ont proposé chacun leur remède. Entre autres, Ivan, son intendant, est venu lui donner le conseil de se faire exorciser. « Dans notre canton, Excellence, lui dit-il, il y a 10 ans de cela, un employé des contributions indirectes qui conjurait le mal de dents, un artiste. Il se tournait vers la fenêtre, murmurait quelques mots, crachait, et ça y était. C'était un don qu'il avait. Où est-il maintenant ? Depuis qu'on l'a congédié de l'administration, il vit à Saratov, chez sa belle-mère. Maintenant, il n'a plus que les dents pour vivre. Quand on a mal aux dents, on va le voir et il vous soulage. Baliverne. Charlatanerie. Essayez donc, Excellence. Il a un faible pour la vodka. Il ne vit pas avec sa femme, mais avec une Allemande. Il est mal embouché, mais il fait des miracles. Ça, on peut le dire. Envoie-lui une dépêche, Alexei, supplie la générale. Tu ne crois pas aux exorcismes, mais moi j'en ai fait la preuve sur moi. Même si tu n'y crois pas, pourquoi ne pas lui écrire ? Les bras ne t'en tomberont pas pour autant. Bon, convient Bouldeyev, je n'y tiens plus. Alors où il habite ton employé et son adresse ? Le général s'assoit à son bureau et prend un porte-plume.
Et il prend un porte-plume et on aimerait bien savoir ce qui se passe après, mais on n'a pas le temps, évidemment. C'était le début d'un nom de cheval, nouvelle de Tchekhov, lu ici par Nils Arstrup. Merci à vous, Françoise Darnal l'aînée, d'être venue nous parler des femmes chez Tchekhov et des nouvelles plus généralement. Vous écoutez France Culture, il est 15h et bientôt 30 minutes. Et c'est le moment de retrouver notre séquence en compagnie des revues. Nous avons le plaisir d'être rejoints aujourd'hui par Michel Crépudeux, la Nouvelle Revue Française. Et Michel, vous souhaitez saluer la mémoire de Frédéric Badré qui nous a quittés à l'âge de seulement 50 ans.
Oui, Frédéric Badré avait publié à l'automne dernier, aux éditions du Seuil, un livre intitulé « La Grande Santé » où il racontait son démêlé avec cette maladie qui est la maladie de Charcot. Et j'avais été très impressionné par ce livre, par l'absence de chichi, si vous me permettez cette expression, qu'il y avait dans ce livre. Et puis, quelques semaines ou quelques mois plus tard, Frédéric Badré m'a contacté pour me proposer de publier la suite de La Grande Santé, qu'il avait appelée « L'intervalle », mot utilisé par Saint-Simon dans ses mémoires pour désigner l'espace qu'il y a entre la vie et la mort. Et j'avais bien sûr accepté. Et ce texte, donc, figure au sommaire du numéro de...
Ce sont des bonnes feuilles ou c'est du texte intégral?
Non, c'est pas le texte intégral, parce que le texte intégral, il l'a achevé il y a 2 jours. Nous avons échangé un message par texto où il me faisait part de son... Voilà, de son souhait, de la joie qu'il avait eue à publier ce texte dans la revue, et il me proposait la suite. Et voilà, donc on publiera ce qui reste d'inédit.
C'est un livre qu'il avait écrit aussi avec un souci de documenter, je crois, sa maladie.
Le mot documenté est faible. Je dirais que ce livre est vraiment l'expression d'une extraordinaire capacité de faire face à une maladie qui n'appelle pas la notion d'amélioration ou de suspension ou de retour en arrière ou quoi que ce soit qui pourrait faire briller un espoir quelconque. Donc il a vraiment fixé sa maladie en face, et je suis allé le voir la semaine dernière, il y a presque 8 jours exactement, et j'avais été absolument stupéfié par cette capacité de faire face qui m'évoquait, je le dit vraiment sans forcer la note, ce tableau de Francis Bacon du pape assis sur sa chaise et qui est comme ça dans cette espèce de droiture. Et Badré était comme ça. C'est l'image que je garde de lui et aussi de son livre, de ses pages.
Également au sommaire de la NRF, numéro 617. Un entretien avec Philippe Labro.
Oui, alors là, on change d'atmosphère. C'est un entretien qu'on a fait au mois de décembre dernier. J'ai pris soin de le dater parce que nous évoquons dans cet entretien l'élection, la campagne électorale américaine en cours, qui, comme vous le savez, est savoureuse. Naturellement, la prudence voulait que, sachant que cet entretien ne serait publié qu'au mois de mars et qu'on était avant Noël, la situation des candidats en lice pouvait évidemment...
Je n'ai pas imaginé la trajectoire de Trump.
Elle pouvait bouger. Et somme toute, à la lecture, je trouve que Labro, dont on connaît l'espèce de passion qu'il a pour la réalité américaine, n'est pas tombé loin. C'était le moment, maintenant on n'est plus là-dedans, mais c'était le moment en décembre dernier où tout le monde se disait, et c'est ce que dit Labro dans l'entretien, on n'a pas vu venir, on s'est gouré, on a pris ce Trump pour un Charlot, qu'il est peut-être, mais Charlot avance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'était ce moment-là, voilà.
Eh bien, merci beaucoup Michel Crépu, on lira tout ça dans la Nouvelle Revue Française, c'est le numéro qui se termine là, hein.
Oui,
bientôt.
Le prochain sera
un nouveau, vous nous en parlerez également. Merci Michel.
Merci à vous.
Musique. Olivier Rollin a beaucoup écrit sur la Russie. Il y a chez lui une sorte de tropisme russe depuis « En Russie », publié en 1987 aux éditions Quai Voltaire, à une époque où c'était encore l'Union soviétique, en passant surtout par le récit « Sibérie » chez Inculte en 2011, où il va sur les traces de Chalamov, l'auteur des récits de la Kolyma, et jusqu'au roman « Le météorologue », publié donc en 2014, dans lequel il raconte l'histoire d'un homme qui avait créé un service de météorologie en URSS, un communiste convaincu, et qui pourtant va se retrouver au goulag dans l'archipel des Solovki, un peu comme les prisonniers du bagne de Sakhalin dont Tchekhov a décrit la vie terrible.
Sakhalin, qui se trouve dans la mer de Kotsk, isole de l'océan près de 1000 verstes de rivage sibérien et l'entrée dans l'embouchure de l'Amour. Ses coordonnées géographiques sont les suivantes. De 45 degrés 54 minutes à 54 degrés 53 minutes de latitude nord et de 141 degrés 40 minutes à 144 degrés 53 minutes de longitude est. La longueur de l'île est de 900 verstes, sa plus grande largeur de 125 verstes, sa plus petite largeur de 25 verstes. Elle est deux fois plus grande que la Grèce, représente une fois et demie la superficie du Danemark. Nous passons la nuit à De Castri, et le lendemain, 10 juillet à midi, nous traversons la Manche de Tartarie en direction de la Doulka, où se trouve le poste d'Alexandrovsk. Cette fois encore, le temps est d'un calme et d'une netteté fort rares en ces lieux. Des baleines évoluent par couples sur une mer d'huile en projetant en l'air des jets d'eau, spectacle original et beau qui nous divertit tout au long du trajet. Mais je suis, je l'avoue, d'humeur sombre et cela ne fait qu'empirer à mesure que je me rapproche de mon point de destination. Je suis inquiet. L'officier qui convoyait les soldats, apprenant le but de mon voyage, s'est montré fort étonné et s'est mis en devoir de me persuader que, n'étant pas au service de l'État, je n'avais absolument pas le droit d'approcher le bagne et la colonie. J'ai beau savoir que c'est inexact, ces paroles m'ont donné froid dans le dos et je redoute de me heurter aux mêmes arguments sur place.
L'arrivée de Tchekhov sur l'île de Sakhalin, lui ici par Mathieu Lagarrigue. Bonjour Olivier Rollin.
Bonjour.
Alors vous êtes devenu ces dernières années un expert en goulag.
Non, il ne faut pas exagérer, mais enfin il est vrai que cette histoire m'intéresse profondément parce que je trouve d'abord qu'elle est trop peu connue finalement chez nous. Elle est connue en général, comme ça on sait qu'il y a eu le goulag et puis la plupart des gens, y compris chez les intellectuels, n'en savent pas tellement plus. Et puis, et pourtant, elle est, cette histoire-là a complètement contribué à former le siècle dont nous venons, dans toute son, à la fois dans, enfin voilà, dans toute son horreur. En fait, c'est un des deux grands drames du XXe siècle, dont nous sommes tous nés, c'est le goulag.
Alors, c'est comment un goulag et en quoi est-ce que ça peut ressembler au goulag dont nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui, qui est le goulag de Sakhalin, décrit si bien, alors je ne sais pas, il faut le dire bien, de manière belle, très. Peut-être aussi, je ne sais pas.
Extrêmement précisément, en tout cas, oui, avec un scrupule inouï. Un goulag, enfin en fait, goulag, maintenant on dit un goulag pour dire un camp, mais en vérité un camp, ça se dit un lager, comme en allemand, bon, c'est le même mot. Goulag, ça veut dire l'administration centrale des camps, enfin bref, bon. Mais en tout cas, les camps russes, c'était en fait des quantités d'assez petits camps, enclos de barbelés avec des miradors, etc., qui formaient une espèce de constellation, quoi, qui était bon, et dont les détenus, les déportés travaillaient en général hors du camp. Donc ils travaillaient à l'abattage des armes, ils travaillaient dans les usines, ils travaillaient à creuser des canaux, à faire des routes, à poser des travers de chemin de fer, etc. C'est-à-dire qu'ils vivaient tout à fait en contact, presque en osmose, enfin avec la population. C'est une caractéristique assez étonnante. Enfin, des camps soviétiques et qui à mon avis a contribué beaucoup aussi à former la société soviétique et la société russe maintenant telle qu'elle est.
Donc c'était le cas aussi à Sakhalin.
Alors c'est une chose qui rapproche en effet le bagne russe, le bagne de Sakhalin, des camps soviétiques. C'est qu'en effet, il y a tout un tas de degrés, entre le forçat pur et simple et qui dort dans la prison, enfin dans des conditions que décrit Tchekhov et qui sont absolument abominables. Il y a le forçat qui dort dans une maison à l'extérieur, parmi des libres. Il y a des paysans proscrits, c'est encore un niveau en dessous de
puis il y a des bordels, il y a des prostituées,
des libres, etc. Enfin, il y a tout un échelonnement de gens entre ceux qui sont complètement libres, les soldats par exemple, jusqu'à ceux qui sont enchaînés, fer aux pieds, etc.
Donc communautés.
Ce sont des communautés et tout ça se mêle plus ou moins. En effet, il y a des bordels, il y a des endroits où on joue aux cartes. On entend dans la rue les hurlements du type qui est flagellé à mort, etc. Quoi.
Comment est-ce que vous avez découvert, vous, ce récit d'abord de Tchekhov?
Alors, je l'ai découvert, je ne me souviens plus quand exactement, mais il y a longtemps en tout cas, parce que j'ai une grande dilection pour Tchekhov. Je pense que c'est l'écrivain russe, en tout cas du siècle, du 19e siècle, que j'aime.
Pourtant, c'est peut-être pas le plus russe.
Non, justement. Justement, c'est le plus européen, à mon avis. C'est le plus illuminé, enfin illuminé au sens des lumières, quoi. Des écrivains russes. Mais j'aurais aimé prendre le thé avec Tchekhov à Yalta. Je ne crois pas que j'aurais aimé prendre le thé avec Dostoïevski, ni même avec Tolstoï, d'ailleurs.
Vous ne vous seriez pas compris, alors qu'avec Tchekhov, vous vous seriez compris.
C'est-à-dire que j'espère que je me serais compris avec lui, que nous nous serions compris, mais en tout cas, et Dostoïevski et Tolstoï sont des, avec tout leur génie, sont des donneurs de leçons, enfin sont des choses que je crois n'aime pas Tchekhov. Enfin, je suis sûr que Tchekhov n'aime pas, justement. Il considère pas que la littérature est faite pour donner des consignes morales, etc. Bon, ce sont des maîtres à penser de Tolstoï et qui se prennent pour tels, enfin, qui jusqu'à la caricature quelquefois. Tandis que Tchekhov laisse absolument libre de décrit les choses telles qu'elles sont, et comme il insiste très souvent, il ne juge pas, il n'a pas à dire, il parle, je sais pas, des voleurs de chevaux, je n'ai pas à dire que c'est mal. Bon, tout le monde le sait que c'est mal, mais ce qui l'intéresse lui, c'est de décrire l'âme, la psychologie des voleurs de chevaux, la passion qu'ils mettent là-dedans.
Et est-ce que la lecture de l'île de Sakhaline vous a inspiré d'une manière ou d'une autre pour, par exemple, le météorologue? Est-ce que, par exemple, vous avez emmené ce livre avec vous quand vous êtes allé dans cette autre bagne qui a permis d'écrire le météorologue?
Oui, je l'avais relu avant d'écrire le météorologue, oui, en effet. M'en inspirer, je ne sais pas. Enfin, oui, nécessairement. Enfin, disons les trois grands livres sur le bagne ou sur la déportation, qui sont extrêmement différents l'un de l'autre. Mais enfin, disons que sont la Maison des Morts, de Dostoïevski, l'île de Sakhaline, et puis les récits de la Kolyma de Chalamov. J'avais évidemment cela en tête. Enfin, il y a bien d'autres livres.
Ce sont des récits très différents d'une même réalité.
Enfin, d'une réalité qui est peut-être encore plus terrible dans les récits de la Kolyma de Chalamov, parce que le bagne que décrit Tchekhov est absolument abominable, bien sûr, mais à certains égards, il est quand même moins horrible que les camps de la Kolyma, par exemple.
Pourquoi est-il allé là-bas?
Alors, je crois que personne ne le sait très bien. Il y a des hypothèses qui, je crois, sont fantaisistes, mais certainement vous savez mieux que moi, sur des peines d'amour, etc. Je ne crois pas que c'était un homme tellement à peine d'amour. C'est peut-être une chose qui m'éloigne de lui, d'ailleurs, ça. Mais en revanche, je crois qu'il avait écrit une nouvelle qui avait été durement très accueillie, qui s'appelle une histoire banale, je crois. Il avait la première version, donc le Vania, qui s'appelle l'esprit des forêts, je crois aussi, avait été refusé je crois qu'il était assez mélancolique. Voilà. De toute façon, c'était un homme qui cédait, qui avait une pente mélancolique.
Et il avait cette phrase très étrange quand même. Je vais à Sakhaline pour régler ma dette
vis-à-vis
de la médecine.
Oui, ça me paraît un peu étrange. Je ne prends pas cette phrase tout à fait au sérieux, mais je pense en revanche qu'il avait certainement, enfin voilà, que c'est un homme qui éprouvait, sans en faire de théorie, sans en faire de système philosophique ou politique, c'est un homme qui a toute sa vie éprouvé une compassion vraie, voilà, pour la souffrance, quoi, pour ceux qui souffrent et pour les victimes. Je veux dire, il y a cette phrase fameuse aussi dans une lettre à son frère, disant qu'il vaut toujours mieux être victime que bourreau. Bon, donc je crois que c'est quand même surtout une inclination morale comme ça qu'il a portée vers Sakhaline. Au demeurant, c'était un homme qui aimait voyager, tout malade qu'il était, il a toujours aimé voyager et former des projets de grands voyages.
Alors il va méthodiquement préparer son voyage, lire, se documenter, obtenir même une carte de presse, des lettres de recommandation. D'ailleurs, il a très peur que sa lettre de recommandation ne suffise pas à pouvoir accéder sur l'île, parce qu'au fond, c'est juste un bout de papier.
Oui, d'autant plus je crois qu'il n'a pas vraiment de lettre de recommandation. Il a simplement des papiers témoignant du fait qu'il est l'envoyé du journal Temps Nouveau de son éditeur Souvarine. Bon. Mais il n'a pas obtenu de lettre de recommandation des administrations impériales. Bon. Et alors il a de la chance, il tombe sur. Mais en effet, quand on connaît la Russie, la Russie communiste ou la Russie de maintenant, moi je n'ai pas connu la Russie impériale, mais enfin d'après tout ce qu'on sait, d'après ce que Custine par exemple en dit, c'était la bureaucratie, etc. était bien aussi terrible. C'est vrai qu'il peut légitimement éprouver des craintes, parce que arriver comme ça dans un endroit au bout du monde, qui est un bagne, où il se passe des choses terribles, sans être le protégé du tsar ou d'un grand ministre, c'était courir beaucoup de risques.
Bon. Après un voyage de 81 jours, dont on imagine mal ce que ça représente de traverser comme ça toute la Russie. Peut-être que vous imaginez mieux que
nous. Oui, j'imagine assez bien. Enfin, encore que malgré tout, je voyage dans des conditions qui sont quand même plus confortables maintenant. Mais enfin, c'est en effet à peu près 10 000 kilomètres. On s'imagine mal souvent l'immensité de la Russie. Enfin, ça n'a rien à voir même avec les États-Unis ou des pays comme ça. Donc 10 000 kilomètres, moitié en calèche, moitié... avec le dégel, dans les pistes absolument boueuses, etc. Et puis quand même, heureusement, une partie en train aussi. Et puis finalement, la partie finale en bateau sur le fleuve Amour.
Au milieu de la salle des surveillants, il y a un banc en plan incliné et percé d'interstices qui permettent de lier les pieds et les mains. Tolstich, le bourreau, un grand homme charnu, bâti comme un athlète, en manches de chemise et le gilet déboutonné, fait un signe de tête à Prokhorov. Celui-ci s'allonge en silence. En silence et prenant son temps, lui aussi, Tolstich, lui baisse la culotte jusqu'au genou et lui lie lentement les bras et les jambes au banc. L'inspecteur jette de temps à autre un coup d'œil indifférent par la fenêtre. Le docteur fait les 100 pas. Il a les gouttes à la main. « Veux-tu un verre d'eau ?» demande-t-il. Au nom du ciel, oui, votre haute noblesse. Le voilà enfin attaché. Le bourreau prend un fouet à 3 lanières et le démêle sans hâte. Tiens-toi, dit-il à mi-voix en lui envoyant le premier coup sans prendre d'élan, comme pour s'ajuster. Un, dit l'inspecteur d'une voix de sacristain. Au premier moment, Prokhorov se tait et son expression ne change même pas. Puis un frisson le parcourt. Et ce qu'il laisse échapper n'est pas un cri, mais un hurlement. Deux, crie l'inspecteur. Le bourreau se tient de côté et frappe de telle sorte que les coups tombent en travers du tronc de sa victime. Tous les 5 coups, il change de côté et lui laisse une demi-minute de répit. Les cheveux de Prokhorov sont collés à son crâne, son cou s'est gonflé. Au bout de 5 à 10 coups, son corps, déjà couvert de vieilles balafres, est devenu violacé, presque bleu. À chaque coup, l'épiderme craque. « Votre haute noblesse !» entend-on à travers les sanglots et les hurlements. « Votre haute noblesse, pitié, votre haute noblesse !» Au bout de 20 à 30 coups, Prokhorov gémit comme un homme ivre ou délirant. « Je suis un pauvre homme, un homme désespéré. Pourquoi est-ce qu'on me punit ?» Puis le coup se tend d'une manière étrange. On entend des haut-le-cœur. Prokhorov ne dit plus un mot, ne sait plus que geindre et râler. On dirait que depuis le début du supplice, une éternité entière s'est écoulée. Mais l'inspecteur n'en est qu'à 42, 43, jusqu'à 90, il y a loin. Je sors.
On voulait passer un peu en longueur cet extrait, Olivier Rollin, lu toujours par Guillaume Gallienne, parce que Tchekhov, et on l'entend très bien ici, c'est déjà le débarcadère de l'enfer.
Mmh. Oui, et quand on connaît en effet ça, son horreur de la violence et de l'oppression physique, brutale, etc., d'un être humain sur un autre, il faut vraiment admirer son extraordinaire scrupule, enfin courage, d'être allé, d'avoir voulu voir cela aussi. Il décrit dans ce texte-là, dans ce passage-là, il décrit il y a des salauds, d'autres bagnards qui sont là et qui disent oh votre noblesse laissez-moi voir. Donc il y a des voyeurs qui veulent voir ça et lui au contraire il a une horreur terrible, ce qui fait d'ailleurs qu'il sort. Dans la rue, après le 20e coup, etc. Mais il pousse le scrupule de son enquête jusqu'à être témoin de cela pour pouvoir le dire.
Et on peut peut-être faire une analogie entre la Russie et l'enfermement. Tchekhov voit la Russie dans son entier comme un lieu d'enfermement. Il y a une assimilation entre son pays, la prison et aussi, dans certaines nouvelles, comme dans salle 6, l'hôpital psychiatrique.
Oui, naturellement. Je pense que par exemple, le personnage le garde là, à la fin qui s'appelle Nikita, je crois, qui empêche Ragin là de sortir de la salle 6, c'est un personnage qui est directement inspiré des gardiens du bagne et l'incurie, enfin la paresse intellectuelle et morale en tout cas de Ragin elle est comparable à celle du directeur du général qui commande l'île, qui le reçoit bien d'ailleurs, qui s'appelle Kolonnikov, et qui lui dit il n'y a pas de châtiment corporel, et pourtant donc à quelques centaines de mètres de sa demeure on se passe cette scène qu'on vient de dire. Donc oui, l'île est une espèce de microcosme qui représente un peu toutes les tares, tous les vices, les maladies dont souffre la Russie. Mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est que encore une fois, Tchekhov n'a jamais voulu faire de littérature politique. Il n'a jamais voulu, donner des ordres, donner des indications, être un maître à penser.
Bon, même si donc, ce récit a voilà, eu un effet tout, quand voilà, même sur la manière.
Tous ces récits, ensuite, voilà, les absolument. Presque tous ces récits ont une efficace, visent à faire changer les choses, mais ça n'est pas un tribun, quoi.
Quelle est sa place dans la littérature russe, vous qui la connaissez bien, vous qui connaissez bien ce pays en général? Où est-ce que vous mettriez Tchekhov?
Je le mettrais... il est très difficile de connaître bien ce pays, encore une fois, tant il est immense. Et...
On a l'impression que vous en avez quand même bien l'intuition, en
oui,
tous les
oui,
cas.
Oui, un peu, oui. Mais je ne sais pas, il fait partie de la relativement petite, à mon avis, du petit nombre des auteurs, des grands écrivains russes qui sont européens, quoi, il y a toujours ce débat qui est un peu lieu commun, mais qui renaît ces temps-ci. La Russie est-elle européenne, est-elle asiatique, est-elle quelque chose d'absolument singulier? Bon, lui est incontestablement un Européen, un homme qui... Et voilà, il n'y a pas énormément de...
Ce qui vous fascine, c'est pourtant la Sibérie, c'est pas Saint-Pétersbourg, ou peut-être Saint-Pétersbourg aussi, mais ce que vous aimez, vous, dans la Russie,
oui, mais
c'est quand même ces lointains-là?
Oui, mais Saint-Pétersbourg m'intéresse aussi, mais ce qui est justement d'assez étonnant, c'est que Tchekhov, le plus européen, à mon avis, des écrivains de russes de son temps, c'est aussi le seul qui ait connu la Sibérie. Enfin, de ce qu'il avait connu, bien malgré lui. Bon, mais le seul qui ait traversé la Sibérie, c'est qui soit sorti de la Russie d'Europe, c'est Tchekhov.
Le fait que Tchekhov meure un an avant la révolution de 1905, comment vous, personnellement, et avec votre histoire aussi, et votre rapport à la gauche et à l'extrême gauche, vous lisez ce fait-là?
Mais, bon, je suppose qu'il n'aurait... Enfin, ça m'a surpris, et je me suis toujours demandé... ça m'a surpris, je veux dire, par là, je me suis toujours interrogé, pas tellement sur ce qu'il aurait fait en 1905, parce qu'à mon avis, il n'aurait certainement pas été un révolutionnaire, il n'aurait certainement pas non plus été... du côté d'un contre-révolutionnaire. Bon, mais ce sur quoi je m'interroge, c'est qu'est-ce qui se serait passé s'il avait vécu au-delà de 1917. Bon, et à mon avis, la réponse ne fait aucun doute. Il aurait fini en camp. Les camps étaient peuplés de gens comme lui, de modérés, de gens épris de la philosophie des Lumières, de gens d'humanistes, etc. Donc, il aurait certainement fini là.
Merci Olivier Rollin. Holy, holy, holy. ...15h55 sur France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Toute la semaine, en préambule au week-end spécial Shakespeare, à partir de vendredi sur notre chaîne, Jacques Bonafé vous propose d'écouter des sonnets du grand dramaturge anglais.
Sonnet de Shakespeare, bonjour. Pour Jean-François Perret, il cache une petite pièce, certain théâtre narcissique. Yves Bonnefoy, autre traducteur, trouve un fil, une fiction à suivre. Chacun reconnaît des thèmes, effectivement, des parties, des rebondissements. Le jeune amant adulé est convoité par une autre, la Dame Noire, dont voici le sonnet 144 en deux traductions, Yves Bonnefoy et William Cliff. Yves Bonnefoy, j'ai deux amours, l'un fait ma joie, l'autre m'accable, tels deux génies qui sans répit m'assaillent. Le bon, un ange, est homme et la beauté même. Le mauvais, un démon et femme de couleur sombre. Pour me jeter plus vite en enfer, mon fléau, cette femme, veut de mon ange qu'il m'abandonne. Mon saint ami, elle tente d'en faire un diable, de le séduire à sa lubricité. Et que démon soit maintenant mon ange sans pouvoir l'affirmer, je le soupçonne. Car ils sont loin de moi tous deux, ils sont amis. Je crains que l'un ne soit dans l'enfer de l'autre. Mais je n'en saurai rien, je vivrai dans le doute, tant que le mauvais feu n'aura pas fait son œuvre. Par William Cliff, j'aime à la fois bonheur et désespoir, deux anges qui sans cesse me tiraillent. Le premier est un garçon beau à voir, le second une ogresse dont l'entraille est toujours à s'agiter pour me prendre mon ange et la tirer dans sa crevasse afin d'en faire un démon de cet ange et le damner par sa manœuvre basse. Comment savoir si ce monstre y arrive? Je soupçonne fort, mais je n'en sais rien, voyant le babil auquel il se livre, que l'ange a pénétré le sein des saints. Pour en être sûr, il faut que d'abord l'ange mauvais mette le bon dehors. Vous l'avez entendu, des décasyllabes et des rimes dans la traduction. Ah, le sonnet 89 traduit par William Cliff. Si tu dis que je ne suis qu'un pervers, je prouverai ma culpabilité. Si tu dis que je marche de travers, je boiterai pour ton pas emboîté. Tu peux jeter sur moi 1000 disgrâces. Pour ta grâce, je me disgracierai et ferai comme si ton beau visage m'était rendu tout à fait étranger et m'excluant de ta présence. Alors je publierai ne te connaître pas pour que cela ne te fasse pas tort, qu'on sache qu'un jour j'ai croisé ton pas. Donc pour te plaire, je me haïrai, car je dois haïr quiconque tu es.
C'est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Jacques Bonafé qui lisait des sonnets de Shakespeare pour Clore, une compagnie des auteurs consacrée toute la semaine à Anton Tchekhov jusqu'à jeudi. Un grand merci à Olivier Rollin dont je rappelle son dernier récit paru Veracruz, c'est aux éditions Verdier. Un grand merci également à Françoise Darnal-Lenné dont la traduction de Ma vie en province, un petit texte de Tchekhov, pas si petit que ça d'ailleurs, date de janvier dernier. C'est disponible aux éditions de l'Harmattan, de même que votre dictionnaire Tchekhov, Françoise Darnal-Lenné. Demain, nous terminons notre semaine par une rencontre avec le metteur en scène allemand Peter Stein, qui se trouve être à Paris pour monter la dernière bande de Beckett au Théâtre de l'Œuvre. Ce sera à partir du 19 mai et il en profite pour venir nous voir. Rendez-vous pour cela demain à 15h. Cette émission a été réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Juliette Delperrou. Merci à Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Pascaline Bonnet et Sophie de Lombarès. On me dit que ce n'est pas le 19 mai, mais bien le 19 avril, évidemment, au Théâtre de l'Œuvre, la mise en scène de la dernière bande par Peter Stein. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter en particulier.